C'est moi qui remplace les acétates. Et c'est là qu'on réalise comment est-ce qu'on est esclave de la technologie. Hein? Il faut se rappeler que avant l'invention de ces affaires-là, il y avait la parole de Dieu puis le messager. Hein? Et c'est ça qui est important. Vous savez, on a chanté des beaux chants. Puis moi, je veux remercier le Seigneur publiquement pour ma nouvelle Bible. Un vrai miracle. Une Bible. Combien de temps t'as passé, Michel, à essayer de trouver ça? Oui, partout dans le monde. Croyez-le ou pas, Philippe, mon oncle, avait une boîte. C'est la Bible de son épouse qui est rendue auprès du Seigneur. Puis même ma tante Pierrette avait acheté ça. Là, je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que ma tante Pierrette fait avec une Bible de pasteur? Parce que c'est ça de même, ça s'appelle. C'est des anciennes Bibles avec des grandes marges que tu peux écrire dedans. Puis on appelait ça des Bibles de pasteur dans le temps. Et je n'étais pas à prendre n'importe quoi, là, n'importe quel format, pour avoir les renvois de Roche-Dieu. Et à fin de compte, j'ai tombé avec celle-là. Fait que je vais louer le Seigneur pour ça. Parce que l'autre, elle était maganée un petit peu. Hein? Ça va bien, vous? Bon. Ce qu'on va faire, on va commencer par la lecture de la parole de Dieu ce matin, puis on va avancer dans notre étude. Et je n'ai pas changé d'idée. Je vais quand même garder le même titre, le même message. C'est la vie d'une église en santé. Et c'est un texte dans 1 Thessaloniciens, si vous le tournez dans vos Bibles, chapitre 5, versets 12 à 28. Et j'ai mis comme sous-titre en bas les comportements que Dieu aime dans son église. Les comportements que Dieu aime dans son église. J'aimerais peut-être, avant de commencer la lecture, vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené à emmener ça ce matin. Le Seigneur m'a mis ça sur le cœur parce que, vous savez, on lit un paquet de livres. Il y a des livres qui existent. Comment avoir des grandes églises? Comment ensemencer des églises? Comment avoir le meilleur programme pour que les jeunes viennent? Comment avoir le meilleur programme pour les plus âgés viennent? Comment faire telle affaire? Voici ma recette magique. Et si vous faites ça, ça va attirer le monde. On est en compétition avec Walmart. Et là, on commence avec des stratégies. J'avais lu un livre une fois qui s'appelait « More People ». Et puis, tout le livre, là, il parlait juste de ça. Des méthodes, des stratégies, du marketing pour que les gens viennent à l'Église. Qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Vous êtes bien intentionné dans tout ça. Et là, on disait, là, voici l'évangélisation, c'est primordial. La louange, la musique, c'est primordial. Même, ils mettaient la louange et la musique en premier. Ça attire beaucoup de gens. Bon orchestre. Après ça, c'était l'évangélisation. En troisième, c'était la cure d'âme. C'est-à-dire prendre soin de tous les gens, des enfants avec l'école du dimanche, pasteur jeunesse. On voulait avoir aussi des gens qui s'occupaient des personnes plus âgées. Alors, c'était toutes des belles recettes. Par dernier de son livre, il disait, écoutez bien. Il disait, essayez tout ça si vous voulez. Mais il dit, il y a juste une manière de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est de parler de Jésus. Dire au bout de bord, puis aller parler de Jésus, ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Et je me suis dit à moi-même, oui, si on retourne au « A », le « A » c'est quoi? Allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là, on se perd avec toutes les stratégies et les méthodes. OK, mais c'est beau tout ça, là, mais pour avoir des gens qui se virent de bord puis qui vont aller témoigner leur foi à l'extérieur du rassemblement chrétien, il faut premièrement qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et Thessalonique était la plus belle église du Nouveau Testament. C'était pas comme Corinthiens, qui était la plus maganée. pour être poli. Thessalonique, c'était des gens qui avaient entendu parler de Jésus, qui avaient arrêté de servir les idoles pour servir le Dieu vivant. Et l'apôtre va écrire deux épîtres, deux lettres à cette église. Et chose extraordinaire, lorsqu'il termine la première lettre de Thessalonique, il va leur donner des recommandations. Puis là, tu peux te poser la question, mais pourtant, c'est une bonne église. C'est l'église victorieuse, c'est l'église que les œuvres que cette église faisait étaient répandues dans l'ancien monde. Et pourtant, il leur donne des recommandations. Donc, ça doit être important. Il y a même 10 recommandations qu'il leur donne. Et là, en donnant ces recommandations, tu te dis en toi-même, « Oui, mais l'Église est en santé. » Et c'est justement là qu'il m'est venu l'idée de dire, « Qu'est-ce que l'Esprit-Saint dit à une Église en santé? »« Hey, t'es en santé, t'es correct, bouge-toi les deux oreilles, ferme-toi les yeux, t'es parfait, t'as pu être regardé le nombril. » Non. Elle donne des recommandations. Pourquoi? Parce que la santé spirituelle de chacun de nous est primordiale à la multiplication des disciples du Seigneur Jésus. Et nous ne sommes pas plus en santé que le plus moins en santé de la gang. Parce que le corps est uni par l'esprit et nous nous donnons ensemble une vision qui vient du grand visionnaire Jésus, que lorsqu'il n'y avait pas un chrétien sur la planète Terre, il a dit « Allez faire des disciples ». Et nous sommes rendus en 2014, puis on cherche la recette magique. Avec ce qu'on a vécu, nous, il y a quelques années, voyez-vous, sais-tu qu'on n'enseignait pas le sang précieux Jésus-Christ nous sauve de tout péché? Non, on enseignait ça. On avait une école du dimanche, très bonne école du dimanche, avant qu'on passe au feu des deux côtés. On avait des enseignants en masse, très qualifiés. On avait une bonne équipe d'évangélisation. On avait des programmes pour un peu tout le monde, même si c'était pas parfait, là, partout. Là. Et pourtant, le diviseur, le diable, la chair, a réussi à nous réduire ensemble. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dirait à une Église en santé? Quelles recommandations la parole de Dieu donne à une Église qui va aller de l'avant? À une Église qui va avoir un comportement qui plaît à Dieu? Et c'est pour cela que j'aimerais partager avec vous ce texte. Il y a 10 recommandations, mais je vais quand même condenser un peu, mais je vais quand même les mentionner pour qu'on puisse réfléchir 2 secondes à chaque. Parce que le but de tout ça, vous savez, les relations humaines, c'est des bénédictions bien compliquées. On vient d'écrire un livre de 300 quelques pages avec ce titre-là. Les relations entre moi et vous, vous et moi, votre voisin de gauche, votre voisin de droite, en arrière, en avant, nos relations. Puis laissez-moi vous dire que notre relation d'étain, verticale, horizontale, la manière qu'on a, la qualité de relation qu'on a avec Dieu va déteindre sur la qualité de relation qu'on a les uns avec les autres. Et mes amis, je ne suis plus surpris de lire l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Il va dire ceci. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères, vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. consoler ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. User de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous ou envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous, à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Vous savez, la première chose qu'il va nous mentionner pour un Église en santé, un Église qui se comporte comme Dieu aime, qu'un Église se comporte, c'est la relation entre les chrétiens de cette Église-là et leurs dirigeants. Lorsqu'il parle de considérer ceux qui travaillent parmi nous. Mes amis, hier encore, j'étais à Victoriaville. Et je parlais avec un autre pasteur qui me contait toutes sortes de choses qui se passent dans ce bout-là. Croyez-le ou pas, là, on dirait que c'est général. On dirait qu'on est dans une époque où l'on méprise l'autorité que Dieu établit. On méprise le gouvernement, on méprise les policiers, on méprise tous ceux qui sont en autorité pour prendre des décisions. On méprise les professeurs, on méprise le rôle de parent pour certaines situations que j'ai entendues. Alors, on est dans un constat où les relations avec l'autorité sont perturbées. Et peut-être vous allez dire, ils ont raison dans certains cas. Oui, peut-être qu'ils ont raison dans certains cas de penser d'une certaine chose. Mais selon Romains 13, 1, c'est marqué que qu'on soit soumis à toute autorité établie par Dieu. Même si l'autorité ne fait pas ce qu'on dit, exemple, M. Harper va déclarer la guerre, le Canada tombe en guerre, et vous n'êtes pas d'accord, le Canada est en guerre quand même. Vous comprenez l'exemple? Dieu, dans sa sagesse, a délégué l'autorité. C'était mon message. Je ne me rappelle plus quand, mais je l'ai fait celle-là. Alors, il faut savoir ici que cette relation dans le verset 12 et 13 est tellement importante. Il nous appelle non pas à la crainte et la peur d'être tapé sur les doigts par l'autorité, mais il nous appelle plutôt à avoir beaucoup d'affection, pas parce qu'il se peigne sur le même côté que nous, qu'il met une cravate, ou qu'ils pensent comme nous dans tous les domaines, mais cette affection est due à cause de l'œuvre de Dieu qui est faite parmi nous. Et une Église en santé reconnaît l'œuvre de Dieu parmi elle. Une Église en santé est une Église qui se préoccupe de l'œuvre de Dieu. Cette grande commission que Dieu nous a donnée, c'est une Église en santé. Et la paix est le fruit. Savez-vous quoi? Philios, affection. Avez-vous remarqué ce que vous aimez? d'une manière étrange, ceux que vous exercez l'amour envers sont plus faciles à endurer que ceux que vous les avez de travers. Avoir remarqué ça, je ne comprends pas comment se fait ça. Hein? Avoir remarqué que si un ou une ne vous aimait pas en face, là, elle se roulera à terre devant vous, là, puis ça ne changera absolument rien. C'est ce qui arrive. Et là, c'est là qu'on voit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et quand on vient au Seigneur, on demeure des pécheurs pardonnés avec une nature pécheresse qui a une prédisposition vers ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc là, lorsqu'on est en paix, se respectant les uns les autres, peu importe sur le côté où vous peignez, la couleur de vos cheveux, de votre peau, de vos allégeances à gauche et à droite, si on est en paix dans le respect, Dieu trouve ça bon pour son Église. C'est bon. C'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est la relation entre les dirigeants et les chrétiens spirituels. Et là, cette relation est encore plus maganée avec le temps. Parce que les dirigeants de l'Église ont une responsabilité devant Dieu. Hébreux 13, 17 nous dit d'être soumis à ceux qui dirigent, parce qu'ils ont à rendre compte pour vos âmes. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont aller devant le tribunal de Christ, et qu'ils vont comparaître, ils vont rendre compte pour votre santé spirituelle, ces dirigeants-là. Juste le fait de savoir cela devrait, chez nous, en santé, nous qui sommes en santé spirituellement, avoir un profond respect pour ceux que Dieu a mis en autorité. Respecter le gouvernement, respecter les policiers, respecter le professeur d'école, respecter l'autorité parentale, toute cette panoplie d'autorités déléguées par Dieu dans l'humanité, ça vient de Dieu pour la paix, qui fait pleuvoir sur les méchants et les bons. On appelle ça la grâce commune, croyant, non-croyant. Il y a la grâce spécifique pour l'enfant de Dieu qui, par la grâce de Dieu, est né de nouveau. Mais pour en venir à ses dirigeants, ils doivent avertir. C'est jamais le fun d'avertir quelqu'un, hein? Ça prend beaucoup de courage. Je me souviens, il y a bien des années, les gens ne sont même plus ici, là. C'était ma responsabilité d'avertir deux personnes sur quelque chose. Le premier, il a sacré après moi, il a blasphémé, puis il est parti en caquant la porte. Et le deuxième, me remercier de mon intérêt pour sa vie spirituelle. Avertir, c'est jamais quelque chose de plaisant, mais d'utile et de vital. Il y a aussi se consoler les uns les autres. Consoler ceux qui sont abattus. Les dirigeants ont une responsabilité d'aller auprès de ceux qui vivent des temps difficiles et marcher avec eux un certain temps. Galates 6, 1 à 6. Portez les fardeaux les uns les autres. On accomplit la loi royale, la loi de l'amour. Et c'est cela que ceux qui sont en autorité doivent faire. Supporter les faibles, c'est-à-dire ceux qui se disent forts. Supportez les faibles. Ayez de la patience. Usez de patience envers tous. La patience. Pensez-y, là. Ça prend des hommes de Dieu consacrés à l'œuvre de Dieu qui, dans la relation entre les dirigeants et les chrétiens, les enfants de Dieu, a ce surplus sur leurs épaules, car ils ont à rendre compte pour les âmes que je suis à partage. Moi, j'ai toujours dit, dans plus de 35 ans, j'ai toujours dit, vous voulez aller dans une église, allez dans n'importe quelle église où vous voulez. Deux conditions. N'importe où est-ce que tu vas aller si tu vas être heureux ou heureuse. Un, respecter l'autorité spirituelle qui est établie dans l'église. Deux, fais partie de la solution. Point final. C'est simple comme ça. Ça marche en envers, tu vas passer ta vie marabout, contestant, jamais content, toujours en train de se lamenter. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Il y a sûrement une gang, à quelque part, que tu vas dire, « Wow! Hey, les autres, là, c'est comme un gant. Je rentre là, moi, c'est comme un gant qui me fait. » Et là, tu vas être quoi? Tu vas respecter l'autorité spirituelle où tu vas être, n'importe où, puis tu vas faire partie de la solution. Parce que tous les enfants de Dieu, les églises que Dieu a établies, avec les autorités spirituelles, partout alentour de nous, dans le monde entier, parmi 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, Dieu a établi l'Évangile, il a établi sa présence, il a établi son message. Puis il utilise des hommes, des femmes, en santé, pour se multiplier spirituellement. Il y a aussi les relations entre chrétiens. Et là, au verset 15a, on nous parle de la vengeance. Qui est un mec qui se mange froid, ça a l'air. Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mec qui se mange froid. C'est que te venger est plus important que vider ton assiette. Donc, ton assiette que tu as reçue chaude est devenue froide. Tu n'es pas mangeable. Tu es obsédé à faire des points. La relation entre nous, ce n'est pas une compétition. La relation entre nous, c'est de prendre garde que personne ne rende le mal pour le mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se taper dessus les uns les autres. Tu me fais mal, je vais te faire mal. Refuser de se venger, c'est de donner à Dieu la situation et de demander à Dieu de la prendre en main. À Dieu, hein, la vengeance et la rétribution. Romains 12, 17 à 21. De surmonter le mal par le bien. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ils vont devenir confondus. Rechercher le bien. Puis là, je me suis demandé, dans 5B, lorsqu'il dit rechercher le bien, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Rechercher le bien. C'est-tu le bien que toi tu penses? Ou le bien que moi je définis? Ou le bien que Joe Blow définit d'un livre? Ou le bien qu'un autre pense? Quel bien que le Seigneur parle dans la parole? Le bien selon Dieu. Le bien selon Dieu, ce que lui, Dieu, dit bien, pas ce que moi, Michel Penault, dis ce qui est bien, mais ce que Dieu dit ce qui est bien. Et ça, mes amis, il faut chercher le bien. Et c'est toujours quelque chose qui devrait nous préoccuper. Et c'est cela, en recherchant le bien selon Dieu, qui va nous emmener à lire la parole de Dieu, à réfléchir la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu, parce que le bien de Dieu est meilleur que le bien de ce monde. Et là, j'arrive à ce que j'appelle mon trio Big Mac chrétien. 16 et 18. Trois choses. 3, 4, 5. On est rendu au cinquième. 3, 4, 5 ensemble. Ça vient tout ensemble. La joie. Là, j'ai un petit bonhomme qui saute dans les airs, là, dans mon acétate. La joie. Comment vous traduisez votre joie, vous? Souvenez-vous de la période la plus joyeuse de votre vie, puis essayez de vous souvenir de vos gestes, vos paroles, vos pensées. Puis c'est probablement la manière naturelle pour vous de de traduire la joie, d'exprimer la joie. Je me tromperais-tu si je dirais que probablement, il n'y en a pas beaucoup qui seraient 100% pareils. On aurait toutes nos petites particularités. Il y en a qui sont plus intérieurs, puis la joie, c'est comme hein, un pas de vague dans le lac. Là. C'est juste un petit frima, là, puis ça paraît quasiment pas. Mais la joie est dans le cœur. Il y en a d'autres! Ah! Demandez à Adama qu'est-ce qu'il ferait dans sa plus grande joie. Il n'est pas ici un matin, là. Il lui demanderait, mais vous voyez. Non, mais tu sais, et c'est cela qui explique souvent, tu sais, ensemble, reconnaître, exprimer nos joies, ensemble, dans la paix, on peut le faire différemment. Il y en a qui se lèvent un bras dans les airs, deux bras dans les airs, l'autre, les deux pattes écartillées. J'ai déjà vu des gosses tomber à terre. Puis, tu sais, lui, il aime ça, ça jeter à terre. Moi, ma femme ne veut pas, ça salit mon linge. Mais comprenez-vous qu'on est tous différents? Le problème, ce n'est pas ça extérieur, nécessairement. Le problème, c'est l'attitude de cœur. Comment exprimer ta joie devant le Seigneur? Puis, je suis convaincu qu'on l'exprime différemment, dépendant de notre tempérament, de notre culture. Et il s'agit d'aller dans d'autres cultures pour vraiment réaliser, mes amis, c'est très relatif. Comment exprimer notre joie? Et pourtant, c'est le trio. Il dit, Paul dit à cette église, Thessalonique, cette bonne église, « Hey, la joie! Soyez toujours joyeux! » Mais quelle sorte de joie? Est-ce que c'est juste, je chatouille autour du bras et je vais rire dramatique? Non, non. La joie, dans le dictionnaire, est différente que la gaieté. La joie est un sentiment profond de l'âme, une sérénité de l'âme, une paix de l'âme, où ce qu'on est en paix avec Dieu et on a la paix de Dieu dans notre marche quotidienne. On arrête de s'attendre à Dieu pour qu'il donne tous mes cadeaux de Noël, puis on dépend de Dieu qui nous donne ce que lui veut qu'on ait. C'est tout un exercice. Grosse nuance entre s'attendre et dépendre. Il parle de la prière, ça fait partie de mon trio. La prière. Oh, je ne vais pas vous le dire, hein? Vous connaissez tous des belles histoires de réponses de prière, n'est-ce pas? Et je connais beaucoup de prières qui ont été priées. Puis les gens n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu. Mais ils ont eu la réponse de Dieu. Il a dit non. Hein, c'est classique. Oui, non, pantin. Très simpliste, peut-être. Est-ce que vous croyez quand vous priez, ça dépasse le plafond? Est-ce que vous croyez que ça va plus loin que les nuages? Est-ce que vous croyez que ça va direct au trône de grâce? Donc, lorsque vous priez en sachant toutes ces choses-là, que vous pouvez mettre devant Dieu toutes ces requêtes, quelle joie, quelle paix. Et j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, je ne sais pas si je suis correct de dire ça 100%, mais vous savez, des fois, la réponse aux prières est plus importante que la prière elle-même. Moi, j'ai remarqué ça dans ma vie. J'ai eu des prières dans ma vie que Dieu a dit non, que ça ne faisait pas mon affaire. Mais j'ai dû l'accepter. De mon Big Mac, c'est là, j'ai l'action de grâce. Savoir remercier Dieu. J'étais à la table du Seigneur le matin, puis je fais exprès de ne pas me lever parce qu'il faut que je m'arrête. Mais comment est-ce qu'on va traduire nos actions de grâce, notre remerciement à Dieu, tout seul dans la chambre chez nous, avec un petit groupe, ou dans l'Église entière qui est réunie? Moi, j'aimerais vous suggérer que ça va être différent. Ça va être différent, l'action de grâce. Et moins qu'on va être, plus qu'elle va être ciblée. C'est comme les requêtes. Et moins qu'on va être, ça va être ciblé, et plus qu'on va être, plus ça va être général. C'est pas méchant que ce soit comme ça non plus. Tu sais, on est dans une réunion avec 2000 personnes, puis le gars se lève et dit, « Priez pour la grosse orteille de ma grand-mère, et elle a échappé une bouteille dessus. » Tu sais, prier pour la grosse orteille. Peut-être que le contexte voudrait prier avec deux, trois gars à quelque part d'un coin. Un peu ça, là, l'idée. Alors, ce trio Big Mac, c'est la joie, la prière et l'action de grâce. Et ça se passe en dedans et à l'extérieur. Et ça, c'est une église en santé. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Dans Romains 12, il y en a 25, donc j'ai pris les 10 et 7 à la place. Alors, voyez, il va continuer notre sixième. Ça parle, versets 19 et 22, « N'attriste pas le Saint-Esprit. » Et ça va, lui, il va plus loin. Il dit, « N'éteignez pas l'Esprit. »« Do not quench the Spirit. » Et là, tu dis, « Oui, mais l'Église est en santé. » Puis Paul donne la recommandation à cette bonne Église en santé de faire attention de ne pas éteindre l'Esprit Saint parmi eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Éteindre. Et l'illustration que je pourrais vous donner, sur mon iPad ici, là, j'ai des chansons. J'ai des chansons, puis je pourrais vous faire jouer, là, je ne marcherai pas ici, là, mais c'est assez fort. Je pourrais vous faire jouer « Long Black Train » de Josh, qui parle du... C'est un cantique, ça s'appelle « The Long Black Train ». Mais je ne ferai pas ça parce que c'est pas maintenant, puis on n'est pas d'une personne anglaise. Mais elle est là. Mais il y a une entrave pour qu'on l'écoute. L'entrave, c'est qu'il y a plusieurs pitons qu'il faut que je pèse pour que le son sorte. Puis il y a un autre piton qui va contrôler le volume. Hein, vous savez ce que je veux dire? Et lorsque le terme « N'éteignez pas l'esprit parmi vous » nous parle d'une sorte de volume, une sorte d'entrave à la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Cette entrave fait en sorte que lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu nous parle, on ferme le volume pour ne pas l'entendre. On baisse le volume. Il est toujours là en train de parler, là, mais on a fermé le volume. Et l'apôtre est soucieux de dire à cette église en santé, cette église qui a un comportement comme Dieu aime, il leur dit, fermez pas le volume quand l'Esprit vous parle. Vous savez, on est dans un monde évangélique d'extrême. Il y a une place qu'on parle juste du Saint-Esprit, puis il y a une place qu'on n'en parle pas partout. Est-ce qu'on pourrait avoir un juste milieu à quelque part, là? Moi, je suis convaincu que l'action du Saint-Esprit va nous éclairer, nous amener comme un seul homme devant l'Éternel, marcher sous sa bannière. Frères et sœurs, nous sommes en train d'avancer l'œuvre de Dieu ensemble. Levons le volume. Écoutons l'Esprit qui nous parle par la parole, qui nous donne des convictions, qui nous fait avancer ensemble, qu'on priorise les choses. Et laissez-moi vous dire, vous ferez ce que vous voudrez. Si nos relations les uns avec les autres ne sont pas comme Dieu les veut, on va saboter l'œuvre de Dieu s'en allant. Parce que Dieu est un Dieu d'unité, est un Dieu qui conduit ceux qui se laissent conduire. Et ça, c'est un grand mystère. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre, oh boy, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est tout puissant, va nous laisser aller et laisser faire de fermer le volume quand Dieu parle. Et ça va rejoindre le fils prodigue, hein, celui qui a dilapidé tous les biens de son père. Le père ne l'a pas attaché avec une chaîne après son lit. Il a dit, donne-moi mon héritage, je m'en vais faire un party. Il a fermé le volume. Il a donné. Il est parti. Voyez-vous, n'entravez pas. N'entravez pas. Ça l'appelle la repentance, la confession, l'humiliation et demeurer enseignable. De savoir que nos relations les uns avec les autres ne dépend pas que vous pensez tous pareil. Ce n'est pas la conformité de l'unité. L'unité, c'est la diversité unie par l'Esprit qui fait un corps qui marche à la gloire de Dieu. Parce que le but de tout ce qu'on fait, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. La finité de tout, c'est Dieu. C'est son œuvre, c'est son évangile. Agir comme des adultes dans la foi. Ça, c'est 7, 8 et 9 et 10, les quatre derniers, rapidement. Respecter ceux qui parlent de la part de Dieu. Et c'est important. Vous savez, tellement, il y a tellement de gens qui arrivent et disent « Ainsi parle l'Éternel, là, puis Dieu dit ça, puis Dieu dit ça. » Attention! Attention, il faut respecter ceux qui parlent de la part de Dieu. Il faut s'assurer que ceux qui parlent de la part de Dieu, le fondement, ce n'est pas leurs imaginations, le livre qu'ils ont écrit, mais que ce soit vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre fondement, notre autorité, puis tout ce qu'on fait dans l'Église et notre style de vie dans le monde et où est-ce que nous allons, etc., etc., vient de la vérité de la parole de Dieu. Et écoutez bien une phrase que j'aime bien, qui m'a beaucoup aidé dans ma réflexion, c'est que la Bible a raison dans tous les domaines qu'elle touche. Parce qu'il y a des domaines, c'est obscur, on n'a pas réponse à tout. Mais elle a raison dans tous les domaines qu'elle touche. Puis là, apprenez par cœur Deutéronome 29, 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées au Fils de l'homme. C'est mon oncle qui m'a donné ça quand j'étais jeune. Gérard. N'oubliez pas. Oui, vous avez des questions. Oui, il y a des petits drapeaux rouges à gauche et à droite. Mais lorsqu'on lit des choses claires dans la parole de Dieu, on ne prend pas les choses claires pour les noircir avec des choses noires. On prend les choses claires pour éclairer les choses noires. Et non pas l'inverse. Discerne, discernement spirituel, c'est la huitième recommandation thessalonique. Le discernement spirituel, ça c'est un beau mot, discerner. C'est le plus beau cadeau que l'Esprit-Saint ne peut pas donner. Quelqu'un qui voit les nuances. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, là, mais qui est comme ça, puis qui est capable de zoomer, puis voir en détail. Discerner. Discerner la tache blanche. Gros comme le bout d'un crayon d'une peinture. Personne ne l'a vu, excepté la personne qui discerne, qui regarde tous les moindres détails. Discernement spirituel. Paul, dans le premier chapitre de Philippiens, prie pour les chrétiens, puis il prie pour qu'ils aient du discernement spirituel. C'est-à-dire que je fais la distinction entre ce que la parole de Dieu dit, ce qui est bien selon la parole de Dieu, ce que Dieu affirme, puis je fais ça, la différence avec ce que je pense, ce que j'aimerais mieux, ce que moi je préfère, etc., etc. Et ça, c'est important. Seigneur, fais-moi discerner les choses les meilleures à tes yeux. Seigneur, fais-moi discerner ce qui est bien à tes yeux, ce qui est agréable à tes yeux. Fais-moi discerner, Seigneur, l'époque dans laquelle on est. Fais-moi discerner, Seigneur, les circonstances de ma vie, les circonstances de la vie de l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine. Donne-moi, Seigneur, une opinion spirituelle qui vient de toi, non contaminée et éprouvée par mes frères et mes sœurs. C'est important. Le dixième, pour terminer, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Toute espèce de mal. Hey, c'est donc large, hein? C'est là, hein? Toute espèce de mal. Et là, c'est important de définir ce qui est mal. C'est bien beau dire, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Mais c'est quoi le mal? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Voyez-vous, c'est comme le gars qui... Le petit gars dans le bois qui crie au loup, là. Hein? Au loup, au loup, au loup. Puis dans le fond, c'est un chien. Un loup, c'est un chien, il n'est pas dangereux. Puis lui, il dit c'est un loup. C'est quoi, là? On tue le chien ou on tue le loup? Je ne sais pas, là, on n'a pas le droit de tuer ça, je pense. Hein? Mais, Benoît m'a regardé les deux aux yeux. Va-tu tuer le loup? Non, mais comprenez-vous l'idée que je veux dire? C'est qu'il faut absolument que la parole de Dieu devienne une source de référence. Et que Dieu devienne la référence, ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, je reste tellement surpris quand les gens disent, « Ah, ben, je ne sais pas si c'est correct, ça, puis c'est pas correct, ça. » Écoutez, demandez à Dieu ce qu'il en pense. Demandez à Dieu ce qu'il en pense. Dieu a du bon sens. Dieu n'est pas stupide. Alors, enseignons-nous les uns les autres le bien et le mal. Parce qu'on est d'un monde qui redéfinit ce qui est bien et ce qui est mal. Et la parole le dit. Dans Romains 1er chapitre, quand c'est marqué « Le bien est rendu mal, le mal est rendu bien », Isaïe en parle, c'est partout dans la parole. Alors, on est devant un système, nous, tricoté par les ennemis de Dieu, qui veulent nous donner à nous une nouvelle manière ou un nouvel outil qui s'appelle leur pensée, afin qu'on discerne ce qui est bien, ce qui est mal, selon eux. Et c'est là qu'il dit à Thessalonique, cette église extrêmement en santé, une église qui se comporte comme Dieu veut qu'il se comporte, soyons de ceux qui se tient à l'écart de toute espèce de mal, parce qu'on l'identifie, le mal, puis on l'identifie, le bien. Quatre choses. Non, il n'y a pas peur, là, c'est pas quatre points. Quatre choses. Toile de fond. Ça, c'est 10 recommandations, puis il y a une toile de fond. Ça les est, c'est toute une commande, ça, ces recommandations-là. Là. Ça fait le tour de tout. Là. Comment est-ce qu'on va y arriver? Un, compter sur la puissance de Dieu. Ça, c'est le verset 23-24. La puissance de Dieu. Comptez pas sur votre propre puissance. Comptez sur la puissance de Dieu. Plaçons notre foi en Dieu seul. Sachons que Dieu est intéressé à nos vies, qu'il est inquiet de tout ce qu'on vit. Dieu se soucie de notre quotidien. Pas nécessairement inquiet, mais se soucie de notre quotidien. Deuxième chose, comptez sur la prière puis l'amour de l'Église. Comptez sur la prière et l'intercession des frères et des sœurs qui prient pour nous autres. Comptez sur la parole de Dieu. Comptez sur les saintes Écritures qui nous enseignent ce qui est bien, ce qui est mal. Et quatrièmement, comptez sur la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu gracieux, un Dieu qui nous aime, un Dieu patient avec nous. Parce que vous, quoi, si vous pensez à ça, ce que la parole demande à l'Église, demande à nous, l'Église, les croyants, Dieu l'a fait pour nous autres. Dieu il est patient avec nous autres. N'est-ce pas? Soyons patients les uns vers les autres. Dieu a établi la paix avec lui par son Fils à la croix. Établissons la paix sous la croix. Et si on demeure sous cette croix avec l'Évangile, soyons certains qu'on va poursuivre la paix, l'amour, la joie, et on va grandir dans le Seigneur ensemble, puis accomplir son œuvre ensemble. Je vais terminer par la prière. On est assez loin. Seigneur Dieu, oui, le temps passe vite, mais on est devant toi ce matin, Seigneur, et cette réflexion ce matin, Seigneur Dieu, sur le comportement de ton Église, l'attitude que tu aimes voir dans ton Église, chaque croyant, Seigneur, et on te demande ta grâce, Seigneur Dieu. Oui, on compte sur ta puissance, car tu es un Dieu qui n'est pas limité par nos faiblesses. On compte sur la prière et l'intercession de nos frères et nos sœurs parce qu'on veut veiller et prier les uns pour les autres. On veut compter sur ta parole car on veut la méditer, la lire et l'étudier pour nos vies et connaître vraiment la différence entre le bien et le mal. Et Seigneur, on compte sur ta grâce parce qu'on ne mérite rien et qu'on n'est pas dans cette action d'œuvre méritoire, mais qu'on est rempli, Seigneur Dieu, de ta grâce parce que tu nous as tant aimés. Tu as payé cher, comme qu'on a vu ce matin, le prix de notre rachat. Seigneur Dieu, fais de nous, hommes et femmes ici ce matin, les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre patience.